Rebonsoir, rebonjour,
rebon matin.
Donc, on revient pour une deuxième épisode avec Antoine sur les hip-hop. Donc, on recommence où qu'on a failli finir parce qu'on a déblatéré pendant de très longues minutes. Mais on peut recommencer en parlant de pourquoi peut-être le hip-hop est rassembleur. On en a un peu parlé au dernier épisode, mais là, si on peut en parler plus en profondeur. Antoine?
Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bon, tu vas en parler en profondeur. Fait que pourquoi le hip-hop est rassembleur?
En effet. Puis là, il faut souligner qu'on est à la fin de la deuxième bouteille de Willem.
De Willem?
De Willem.
Ouais.
Donc, excusez notre déblatération.
Et notre manque d'articulation.
Peut-être.
Parce que pour répondre à la question, selon toi, pourquoi le hip-hop est rassembleur, j'avais des exemples de chansons.
Okay.
Puis je m'étais dit, est-ce que je les rappe? Mais
oui,
dès... Non, mais dès que je veux rapper ou chanter... Je marmonne. Fait que je vais les lire
fort.
Ouais, man.
Le montage, je peux peut-être.
Parce que pourquoi.
Tu peux les lire, puis on les entrecoupe pas d'extrême.
Ouais, ben bonne idée. Parce que pourquoi c'est rassembleur? Je pense que c'est le but premier des hip-hoppers, créer l'unité pour mieux lutter. Puis on a une chanson de NTM, Supreme NTM. Là, on n'a même pas dit qu'est-ce que ça voulait dire, Supreme NTM. Je m'excuse pour. C'est choquant, c'est. On veut provoquer quand même. Certaines veulent provoquer dans leur déploiement artistique. Supreme NTM, mesdames, qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire NTM? Maïté? Nique ta mère. Oh. Fait que là, on a parlé durant le premier épisode de la Zulu Nation et de faire preuve de respect, de non-violence, de ta-ta-ta-ta-ta-ta. Supreme NTM, c'est vraiment le contre-exemple. De la Zulu Nation, ils vont être violents, juste par leur titre de chanson puis leur titre d'album, tu sais, Paris sous les bombes.
On veut. Violent plus en. Comme. Violent à l'oral, mais pas vraiment physiquement. Ou est-ce que ça s'accompagne des deux?
Je pense que ça s'accompagne des deux. On a vraiment un des membres, Joey Starr, qui va avoir beaucoup de troubles avec la justice puis de comportements violents. Mais pourquoi c'est rassembleur? On a une chanson qui s'appelle Le Pouvoir, puis un. On va dire un verse, parce que là, on parle de rap. On va parler de... Ou une partie de la chanson qui dit « L'année du changement, 90, 1989, en a été l'esquisse, car le bloc de l'Est a explosé sous la pression, de sa jeunesse qui bouge, qui lutte, qui combat l'oppression, le peuple en action, voilà la solution. » On veut se fédérer, on veut se rassembler pour lutter contre l'État oppressant. Puis on va prendre... On va distribuer des flyers pour venir voir les spectacles.
Des pamphlets. En français, s'il vous plaît.
Attends, non, un pamphlet, c'est éminemment politique. Est-ce qu'un flyer, c'est politique? C'est juste une annonce de show.
Ben non, mais un flyer, c'est un anglicisme d'un pamphlet.
Dans ma tête, un flyer, c'est juste une affiche de spectacle. De genre, viens. C'est comme un. Une invitation.
Un programme?
Ouais, parce qu'un pamphlet, c'est pas un... Tu sais, je sais pas, là.
Il y a des pamphlets politiques puis des pamphlets non politiques, non?
C'est pas un dépliant, ça?
Ah!
Je sais pas, non, mais tu sais, j'ai l'air de vous clasher, là. On dirait que je veux me battre,
vrai,
là.
C'est vrai, Maïté, elle s'est fait...
Tu t'es fait démonter, là.
Ouais.
En effet.
En effet.
C'est un dépliant, donc je t'ai interrompu pour rien.
Non, mais c'est pas grave. Fait que on va distribuer des dépliants. Venez à mon spectacle, on va distribuer ses cassettes, on va dire hey, regarde ce que je fais, on va vraiment vouloir aller chercher monsieur, madame, tout le monde, mais pas tant tout le monde, c'est ceux qui risquent le plus de se coller à ce qu'on veut défendre. Puis ça va créer l'unité. Il y a quand même eu des grosses émeutes à Paris puis dans plein d'autres villes.
Ah oh, mais c'est ça, ça crée l'unité, mm-hmm. Mais qui crée des émeutes.
Oui.
Fait que ça crée.
Mais c'est ça, le sujet de la violence est omniprésent dans les...
Parce que est-ce que le fait, admettons, de faire partie d'un regroupement ou d'une communauté hip-hop, par exemple, à Paris, pouvait en fait amener la police ou autre sécurité quelconque à vraiment comme les endosser comme des fauteurs de troubles?
Ouais.
Associés à un crime.
Ah, contrôle de police, monsieur, madame, j'aimerais voir vos papiers, puis c'est comme, yo, je marche dans la rue, là.
Okay.
Puis ça, on va en entendre à plusieurs reprises dans les textes que je fais juste me promener.
Ça rentre dans un sujet qui est quand même encore d'actualité.
Ouais, ouais.
Vraiment. puis qui est encore omniprésent, je crois.
Le profilage racial, c'est un des thèmes les plus présents dans le hip-hop. Là.
Même au début du hip-hop.
Ouais, carrément. Parce que faut garder en tête l'idée de relation métropole-colonie. T'es pas blanc aux yeux bleus, tu parles pas français, ça va pas bien. Hein? C'est ça qu'on dénonce. Puis voilà, le pouvoir, c'est carrément une de mes chansons préférées. Fait que vous l'écouterez à l'instant.
Quels sont les vecteurs, d'après toi, là, de la diffusion de la culture hip-hop dans Paris?
En 1984, sur la chaîne de télé TF1, on diffuse l'émission H.I.P. H.O.P. C'est animé par Sidney. C'est le premier noir à animer de A à Z une émission de télé. T'sais, on pouvait avoir des... C'était normal d'avoir un film ou une télésérie où il y avait des figurants noirs. Puis les Noirs et les Arabes à cette époque-là étaient presque carrément absents du paysage médiatique. Mais là, on a H.I.P. H.O.P. animé par un Noir. Sidney fait son émission au grand complet en rap. Il rappe tout le long. Puis le but de l'émission, c'est de présenter qu'est-ce que le hip-hop. On a des invités. Madonna est venue à H.I.P. H.O.P.
Madonna.
Afrika Bambaataa est venue. Ouais, Madonna. Puis elle a fait une performance.
Madonna est sortie avec Tupac aussi. Moi, je sais, ça m'a complètement...
For real? J'ai l'air mêlé comme un jeu de cartes. Je présente de quoi sur le hip-hop, puis j'avais pas ça, là.
Ouais, Madonna, ça a été... Ben, en tout cas...
C'est pas la femme aussi de Will Smith qui a eu...
Jada, ouais, elle a sorti avec Tupac.
C'est ça, elle a sorti avec Tupac.
Mais Madonna, elle a sorti avec Tupac, je suis pas mal certaine.
C'est un peu la mort qui les a séparés. Fait que Will Smith disait un peu genre... C'est pas une rupture qui vous a séparés, là. Fait que je pourrais jamais arriver un peu à la taille de... Ouais.
Ben, je présente vraiment une photo de Madonna avec Tupac, là, mais je la mets aussi en annexe, donc vous allez pouvoir la voir. Mais, yeah, Madonna est sortie avec Tupac.
Shit!
Une annonce qui ébranle Antoine.
Sujet de recherche à exploiter.
Un choc, ben, pas un choc de culture, mais Madonna était quand même, d'après moi, dans ses jeunes années, parce que maintenant, Madonna, c'est comme. Elle est correcte, Madonna.
Qu'est-ce que tu veux dire, là?
Non, mais Madonna, je pense qu'elle était dans ses jeunes années. Fact. Un peu provocatrice. Ben, comme Cindy Lauper.
Madonna dans toutes ses années, encore maintenant, c'est pour ça que quand on dit Madonna, puis on est un peu comme ben c'est parce qu'elle est provocatrice. Parce que Madonna, comme je veux dire, elle a quoi, elle a 60 ans, un peu plus peut-être. Ben c'est provocateur ce qu'elle fait pour 60
come
ans.
On.
Parce que Fog. On s'attend à ce qu'elle soit une petite madame. Pis c'est pas une petite madame.
Et non, c'est pas une petite madame. Là.
C'est ça. Mais c'est provocateur.
Madonna ne laisse pas indifférent.
C'est ça. Madonna, je pense que c'est ça, son brand, c'est d'être provocatrice. Through and through.
Ça se peut très bien. Pis,
en tout cas.
Reprenons. Ben, continuons avec
Madonna
Sidney.
Madonna est allée à l'émission.
On est à HP à choper. C'est pas une émission qui passe à 1h30 du matin, le lundi, dans la nuit du lundi au mardi. Non, non. On est mercredi, 18h, HIP HOP passe à TF1, une des plus grandes chaînes de télé en France. Puis en plus, c'est pas une émission bâtarde qui précède HIP HOP. C'est, là, j'ai de la misère à le dire, c'est Starkey Hutch.
C'est quoi ça?
Starkey Hutch, de mémoire. Le Rose taponne sur l'ordi, mais je pense, puis tu vas valider. Dans ma tête, c'est comme CSI New York. C'est comme tuile, policier, enquête.
C'est comme District 31.
C'est vraiment quelque chose qui... non, c'est fuck all ça.
Est pas capable
non, mais c'est... Ouais, moi aussi. À chaque fois, je vais chercher Starkey Hutch. Écrit Star. Télé-série Starkey Hutch. A few
moments later. Bon, ben après recherche, pas capable de trouver Starkey Hutch, là, mais c'était une big émission, I guess. C'est juste que je sais pas comment l'écrire. Désolée Antoine, mais bref, ça passe après une grosse émission full populaire. Fait que ça passe pas une heure.
À une heure random. Fait que là, au départ, probablement que, là, c'est mon hypothèse, que les gens se disent ça passe, moi, l'écouter. Mais là, rapidement, les jeunes qui. La jeunesse qui bouge et qui lutte, comme la chanson que j'ai chantée tantôt, s'intéressent à ça, à l'émission, parce que on est habillé en hip-hop, puis l'émission à un moment donné, Sidney. On a parlé de Madonna, on a parlé d'Africa Bambaataa. Il y a des invités, mais à un certain moment de l'émission, il fait les duels. Puis il y a toujours... On va enchaîner...
C'est des rap battles?
Non, c'est ça? Des dance battles. Puis c'est des jeunes, là, vraiment, des jeunes adolescents, puis même pas encore dans l'adolescence, où ils font compétition, l'un contre l'autre, ou l'une contre l'autre, où ils vont vraiment... ben, ils dansent. Ce qui, des fois, c'est bon, des fois, c'est moins bon. Puis le vainqueur, la vainqueur, va remporter la trousse du hip-hopper ou de la hip-hoppeuse. Fait que là, il va avoir du stock musical, il va avoir des vêtements, il va avoir des gants pour faire des prouesses au sol. Des fois, il mettait des gants, le gant de Michael Jackson. Je souligne ça, c'est peut-être hip-hop. C'est peut-être
hip-hop. Mais il faisait du moonwalk aussi.
Il faisait du moonwalk, puis c'est un move hip-hop.
Oh, ouais.
Ouais. Mais le moonwalk, c'est... Tu sais, le moonwalk, c'est un move, un move. Fait puis on l'a retrouvé dans le hip-hop.
OK, parce que, est-ce que... Puis là, ça va peut-être paraître un peu inculte de ma part. Michael Jackson a popularisé ce move-là, mais c'est pas lui qui a été l'investigateur.
Clairement pas. Je suis convaincu que non.
À suivre.
Ben, tu sais, puis c'est comme on parlait de Elvis Presley dans le premier épisode, mais c'est pas lui qui a écrit beaucoup des chansons qu'il a jouées. Mais dans le fond, là, on vient de parler des différents vecteurs de culture hip-hop dans Paris. On a parlé de HIP-HOP. Puis, je sais pas, est-ce qu'il y en avait d'autres dont tu voulais nous parler ou on avait fait... C'est celui-là le principal? Vas-y.
Là, j'ai parlé... HIP-HOP, je dirais que ça rassemble la danse, le vêtement, un mini peu. Le graffiti un mini peu parce que le décor de l'émission, on va voir des graphes. Puis la danse, ben, ça occupe une place centrale. Là, j'ai parlé de où est-ce qu'on trouve des graffitis. À la station métro Stalingrad de la Chapelle ou dans les chantiers de construction. Il y a carrément, là, les dates me manquent, mille excuses, mais le magasin, il y a un magasin de vêtements qui s'appelle le Ticaret. Puis Ticaret, c'est carrément un mot arabe qui voulait dire je sais plus quoi, mais là, checkez ça sur Internet, mesdames. Il y a 8 mois, je m'en rappelais, mais là, je m'en rappelle plus. Le Ticaret, c'est là.
Willem. C'est la faute de Willem.
C'est la faute de Willem.
Ouais.
Le Ticaret, c'était carrément. Comment il s'appelle, le gars? Je cherche, mais en même temps, de vous parler. Au Ticaret, on allait carrément aux États-Unis. S'informer sur la mode vestimentaire.
Dans le fond, c'était comme le lien entre la mode vestimentaire des États-Unis et la revente à Paris, finalement.
C'est ça. On allait là-bas pour ramener la mode des États-Unis puis la vendre à Paris. Puis là, tu pouvais... les marques de vêtements clés, ça pouvait être Adidas, Kangol. Kangol, c'est des chapeaux un peu en... Pas en Suède, mais une espèce de petite fourrure, comme le gilet à rose qui drette devant moi, là. En cachemire.
Mon chandail est en cachemire, mais je ne l'ai pas acheté. Là, il m'a été donné. mais pour votre information, d'ailleurs, là, étant donné qu'on parle de mon chandail, Ticaret, ça veut dire...
c'est pas boutique, non?
Commerce, c'est business, ça. Trade aussi. Donc, voilà. Mais oui, donc la petite fourrure, là, la petite fausse fourrure, mais classique fausse fourrure des années 90, genre. C'est ça qu'on parle?
Pour
les petits chapeaux.
Ouais, les chapeaux Kangol. C'est un petit. Ouais, ça a carrément. Je vais dire, là, ça fait très construction, là, mais ça a ce revêtement-là. Ça a ce look-là, une espèce de cachemire suède, avec un petit kangourou, puis il est écrit Kangol. Puis encore aujourd'hui, on voit des vêtements Kangol. Puis le propriétaire, je l'ai sous les yeux, du Ticaret, c'est Dan. Dan de Ticaret. Puis. Dan, il se faisait commander, il se faisait passer des commandes spéciales. Il y a l'idée du blaze. Le blaze, c'est ton nom d'artiste. Puis il faisait beaucoup de boucles de ceinture ou de colliers avec des pendentifs ou des bagues. Là, en mettant mon blaze, ça pourrait être Tito. Fait que là, mes bagues, j'ai un T sur un doigt, un I, un T, un O. Fait que Tito, puis là, je m'affiche. Ou sur ma boucle de ceinture. C'est ça. Puis on a beaucoup. Il nous reste encore beaucoup de photographies ou de traces de ça. parce que ben, les vidéoclips ont permis de...
C'était comme un moyen identitaire, finalement, pour les personnes qui faisaient partie de la culture hip-hop dans Paris, de se représenter. Fait que finalement, ça faisait partie aussi tant
le bling bling.
De la culture matérielle.
C'est ça. Le Dan de Ticarev, la boutique Ticarev, c'était situé tout près du terrain vague de Stalingrad. Le terrain vague de Stalingrad, c'est un lieu clé des débuts, des prémices de l'époque où on se rassemblait, il y avait Dynasty. Tu te dis, le terrain vague de Stalingrad, c'est carrément un édifice qui s'est fait raser. Puis c'était comme... T'avais la hauteur de la rue, t'avais des clôtures de chantier de construction qui disaient « C'est un chantier de construction, t'as pas d'affaire là. » Tu sautais la grille, t'allais dans le trou. C'était juste... ta vieille pierre, puis du sort, puis là, les gens se réunissaient là, on boit, on fait la fête, on fait de la musique, on danse, on fait du barbecue, man, on bouffe des merguez. Puis Dan de Ticaré, c'était juste à côté, puis il disait, ouais, quand on avait du fun au terrain vague, puis il mouillait, ben là, tout le monde se rassemblait chez moi, on allait dans le sous-sol, il y avait un studio d'enregistrement dans le sous-sol, on vibait, on faisait de la musique. Fait que Dan de Ticaret, c'est carrément un lieu culte. Ben, le Ticaret, c'est un lieu central pour diffuser la culture hip-hop. Puis bon, un endroit pour danser. Certes, il y a le plateau de tournage HIPHOP, mais le Bataclan, c'est les bars de nuit. Le Bataclan où chez Roger Boîte Funk. Chez Roger,
damn.
On l'aurait dit, chez Roger Boîte Funk.
Ça me fait penser à un peu...
On dirait un fermier, man.
Ben, les bars de la rive. Il y a le bar de l'eau à Scott Junction, mais...
Le bar de l'eau...
Rive sud de Québec, tout
ouais,
le monde.
Pas de Paris,
parle
là.
Pas de Paris.
Le bar de l'eau.
Ni de Montréal, comme Rose l'a dit.
Le bar de l'eau, c'est le bar de la Seine, là, à Paris, là. Non, non, c'est, on parle de Lévis, là. Mais ouais, c'est des... Il y a vraiment des lieux clés. Puis des postes. Non, visiblement, il y a un poste de télé, il y a des chaînes de radio. Radio Nova, Skyrock. Là, Skyrock,
Skyrock, excuse les blogs.
Non, mais je sais pas si ça vient de là. Parce qu'il y a une chaîne de radio, un poste, une antenne de radio, là, quand, mettons, le 98 machin. Là.
Genre, c'est quoi, là?
C'est ça. Même. Là, c'était Skyrock. Puis Skyrock, c'est... Là, je sais pas si c'est une question qui s'en vient. Laissez-moi regarder. Non. Fait que là, on pourrait en parler.
Vas-y, vas-y.
Skyrock, on a, avec cette antenne de radio-là, une volonté de vouloir diffuser le rap. Peut-être qu'ils produisaient autre chose, je sais pas, mais je sais qu'ils diffusaient beaucoup de rap. Mais tu sais, on l'a dit tantôt, Supreme NTM, Supreme Nick ta mère. La censure embarque rapidement. Skyrock va commander de la... Ben, pas commander de la censure, là, il va insister sur couper des passages, raccourcir les
c'est
textes.
C'est pour ça que maintenant, on fait d'ailleurs des chansons là, avec...
De 3 minutes 2.
Mais version explicite, version
ouais.
Normale, là, comme radio.
Ouais, ouais, ouais. T'sais, Xarok veut vraiment que les rappeurs-rappeuses rentrent dans une espèce de moule pas politique... quasiment politically correct. Pour qu'ils puissent être diffusés. Bon, là, enfin, on se fait diffuser, mais à quel prix? On perd en authenticité. Skyrock va être bonifiant pour la diffusion du hip-hop, mais rapidement, il va devenir élément de contestation de la part des hip-hoppers parce qu'on perd en authenticité. On veut
parce que la contestation
passage.
A été crue, finalement. Ben c'est
oui,
une contestation sociale, une contestation de la colonisation aussi. Puis ça se voulait être ferme dans sa contestation, justement.
Puis imbibé de haine violente, quasiment. Genre, le hip-hop, je trouve, c'est très violent. Tu sais, on a des pacifistes, mais on en a qui
ouf. Les pacifistes, c'est comme...
Ils crament Paname, là.
C'est
ils
comme
brûlent.
Ce que tu disais tantôt, là.
La Zulu Nation. I am, gang.
With I am? C'est ça?
Non, non, I am... Okay. Il me semble que je sais pas si c'est pendant notre partie qu'on n'enregistrait pas, mais I am, ça veut dire Imperial Asiatic Man. Puis j'avais fait un espèce de jeu de mots tantôt sur. Pas un jeu de mots, mais une espèce de réflexion bizarre sur mon sujet actuel de maîtrise.
On parle pas des Black Eyed Peas.
Non, on parle pas des.
Oui, oui. Dans le premier enregistrement, t'as fait un lien parce que j'ai posé une question vraiment random sur le fait que peut-être tes deux sujets ont pas rapport.
Ouais.
ton sujet de maîtrise par rapport à le sujet que tu nous parles présentement, puis tu as dit, ben non, ça a le rapport.
Ouais.
Puis après ça, on a parlé de Karate Kid. Puis après, on a débattu sur...
J'avais défendu l'idée que dans le hip-hop, la culture orientale et des arts martiaux pouvaient être présentes. I am, son nom c'est Imperial Asiatic Man, ou Je suis. Puis ça l'a joué vraiment sur ces deux registres-là souvent. Puis I am, ce sont des Zoulous. Dans le sens où ils appartiennent à...
cette idéologie pacifique.
C'est ça, pacifique. Il est vrai de dire que certaines chansons peuvent exalter une volonté de violence, mais c'est minime. Tandis que NTM, tes écoutes, on dirait qu'ils veulent tirer sur tout le monde.
Mais en fait, puis c'est peut-être moi qui ai comme une vision peut-être un peu faussée, ou peut-être beaucoup faussée par Hollywood de ce monde, mais... Quand on parle de rap ou de groupe rap ou de communauté rap, on parle beaucoup, ou hip-hop, pardon, on parle beaucoup de criminalité associée.
Mm-hmm.
Dans Paris, est-ce qu'il y avait ça aussi? Tu, on a parlé un peu de ça au premier épisode, qu'on parlait un peu de répression ou finalement là, de groupes marginalisés qui étaient visés par les forces policières. Mais est-ce que la criminalité, par exemple le tag, qui était quand même criminel, faisait partie finalement de ce vecteur de diffusion-là. Est-ce que le crime était aussi un vecteur de diffusion pour les gangs slash pour le hip-hop?
Il va le devenir parce que je ne l'ai pas précisé dès le départ. Le hip-hop, c'est... Puis c'est pas... Non, c'est carrément de quoi que je ne me suis pas intéressé à, mais je suis un peu au courant. Le hip-hop, c'est une combinaison de plusieurs genres musicaux. Le soul, le funk. Puis c'est à la base une musique pour danser. C'est une musique de club. Mais rapidement, va devenir une musique ou une musique qui va servir à dénoncer quelque chose. Et c'est quoi? Oh my god. C'est quoi la question?
Parce que il y a du musique de club, Rose dansait.
Ouais, ça va.
Je faisais le YMCA. Alors, Antoine a perdu son fil. Mais tu parlais du fait que t'étais très...
Ah oui, à la base, c'est une musique pour avoir du plaisir, bouger, danser, puis... Puis je pense, avec la haine qui monte en toi et l'idée de... On vient de gagner notre pari commercial, on va s'adonner peut-être au gangster rap, la volonté de faire peur. Parce qu'au début, on dirait qu'on dénonce, ça marche pas. Est-ce que vouloir être menaçant, intimidant, violent et genre je te braque un arme, est-ce que ça va permettre d'avancer sur le plan de je dénonce puis je veux que ça change? Rapidement, on va tomber dans le gangster rap, je pense. Je pense que le rap commence un peu pacifique, va devenir très violent.
Puis est-ce qu'on peut dire, puis là, je suis désolée, misogyne?
Oui, ben, regardez, gang, le rap, il y a du storytelling. On raconte une histoire, qu'elle soit farfelue, drôle, triste, sexuelle, parce que ça peut jouer sur plusieurs registres. C'est pas parce que c'est du storytelling que c'est du storytelling.
Mais c'est un peu comme une balade, finalement, mais c'est plus rythmé, puis je veux dire qu'il y a quand même un désir. Mais il y a un désir poétique dans le rap.
Ouais, mais je pense que rap, il y a eu plusieurs définitions, mais c'est rythme et poésie, là.
C'est ça, mais il y a quelque chose là, puis... Mais je pense que ça va... Tu sais, ce que tu disais par rapport à la misogynie, puis par rapport à ce qu'on dit des femmes dans les chansons, dans la musique rap, ça va aussi de... ce qu'est la masculinité et qu'est-ce qu'on considère être masculin. Parce qu'à un certain point, j'imagine qu'à force d'évoluer dans des cultures où est-ce qu'on célèbre un peu la violence, justement, on en parlait, ben, à travers cette violence-là, ben, vient justement une espèce de truc que, mais en tant qu'homme, je suis donc supérieur à toutes les chicks.
C'est vrai, mais il y a du gangster rap, mais il y a aussi ce qu'on appelle du seductive rap. Et je pense... avec tout le sérieux du monde, que tu peux faire du seductive rap de manière saine et tu peux faire du seductive rap de manière malsaine.
Ouais, en effet.
Ben, et ouais.
Pour avoir quand même... Puis Rose aussi pourrait se prononcer, on a étudié quand même les masculinités, tu sais, parce qu'il y a le féminisme, les études féministes, mais il y a aussi les études masculinistes.
Mm-hmm.
Puis on voit vraiment des constructions sociales faites par des hommes, un peu pour des hommes, mais pour comme se renforcer. Puis... clairement, il y a un sujet à faire là-dessus, un autre sujet de recherche, mais tu sais, la construction du masculinisme de deuxième génération d'immigrants qui arrivent, qui veulent peut-être se renforcer entre eux, créer une communauté, on crée une violence qui est acceptée. Puis là, je pense au séminaire que Rose et moi on a fait sur la violence avec Donald Faison, mais ça vient en même temps une violence peut-être qui devient comme le tag. Tu sais, on voit pas ça comme une violence parce que c'est devenu, ça fait partie de la culture finalement, mm-hmm. hip-hop.
Puis juste pour ajouter un peu là-dessus, mais la seconde génération, c'est aussi un drôle de moment, je pense. Ben, moi, je veux juste le souligner comme je...
Quand tu dis seconde génération...
D'immigrants.
Ouais.
Parce que t'es pris entre des idées que tes parents y ont.
Ouais. T'es comme prendre deux feux.
Moi, ça, je dis ça là, en ayant aucune conscience de ce que c'est d'être seconde génération, que ma famille est canadienne-française à côté, là. Mais de ce que j'en comprends, c'est que t'es un peu pris en des valeurs aussi de tes parents, de ce que tes parents y ont vécu, puis de pourquoi tes parents sont venus, puis les valeurs de la place où t'es, puis la communauté dans laquelle tu te retrouves. Fait que j'ai l'impression qu'il y a comme tout plein de clash, puis c'est très difficile à naviguer aussi. Donc c'est difficile aussi de se créer une identité dans tout ça, puis peut-être que l'identité se crée à travers justement cette culture hip-hop-là, qui est à la fois contestataire d'un mouvement, mais qui va autant dans le sens des valeurs du pays d'origine.
Carrément, ouais, carrément.
À l'opposé des valeurs du pays d'origine aussi. Donc c'est un peu les trois ensemble, c'est d'essayer de contester ce que tes parents ont connu avant toi, ce que toi, le pays dans lequel tu vis t'impose, mais aussi de te créer une identité dans tout ça. Je sais pas.
Non, mais en histoire des migrations, admettons, là, c'est... Faites-vous, vous, auditeurs, auditrices, faites les liens que vous voulez, là. Mais si on regarde, on porte un regard sur l'immigration canadienne-française aux États-Unis, la première vague migratoire sont constituées de gens qui veulent aller là-bas temporairement et qui vont garder coûte que coûte leur trait identitaire. À partir de la deuxième génération, on est comme pris entre deux feux. On est attaché à nos anciennes valeurs, mais on veut quand même performer puis progresser dans le milieu dans lequel on est. Puis à partir de la troisième génération, c'est comme une espèce de moment de basculement. Là, on est carrément... on est englouti, ou appelle ça comme tu veux, par le milieu en soi, puis on s'adonne pleinement à lui, puis on est rendu comme lui. Fait que là, dans le hip-hop, est-ce que ce serait possible d'avoir le même schéma? Au début, à la fin des années 70-80, on regarde nos parents, puis on veut les défendre. Fin des années 90...
On est pognant les deux.
Ben, pas tant, parce que si je regarde les artistes que j'écoute, on veut encore frapper.
OK.
On veut encore brûler.
Frapper qui?
Les politiciens et politiciennes et ceux qui nous mettent à l'écart puis qui nous confinent à des cités.
Fait qu'on veut brasser la cabane. Là.
On veut brasser la cabane. Puis là, c'est peut-être boiteux comme transfert, mais à partir des années 2000 et du moment où le hip-hop gagne le pari commercial, puis qu'on... Mais c'est quand même un peu faux ce que je vais dire. On dirait qu'il y a une moitié qui oublie d'où qu'elle vient, puis elle est comme, ouais...
Ben, est-ce qu'elle oublie ou elle va vraiment comme...
Ou on n'est pas dans les années 2000, on est en ce moment.
Ben, où il crée une culture qui n'est plus rendue un amalgame d'anciennes générations, de nouvelles, mais d'une culture complètement différente qui ne va pas créer une diffusion, mais une différenciation. Puis là, tu sais, on parle de vecteurs depuis tantôt, mais on voulait parler de vêtements, de cheveux, de graffitis, de comportements, de danse qui les différencient de la culture peut-être générale, ou tu sais, la culture comme...
L'apparence va toujours rester de les premiers hip-hoppers, mais ma bande chronologique...
Dès les premiers hip-hoppers, il y a une différenciation vestimentaire.
On veut une allure soignée, puis on n'est pas en costard, là. On a des vêtements amples.
Mais ça, il y a aussi de... Tu sais, la culture en Afrique du Nord, surtout, mais du sapé, là.
Ouais, la sape, ouais.
La sape. On en a parlé, d'ailleurs...
Avec Alexandre
ouais. Prince, mais la sape, c'est quand même quelque chose qui se transmet, puis elle change aussi à travers le temps. Puis la sape, elle veut pas dire la même chose pour tout le monde. Là. Je veux dire, je pense à des vidéos que j'ai vues d'un monsieur qui parle de la sape, puis pour lui, c'est comme le complet.
Ouais.
Tout.
Ouais, on a probablement vu le même. À Québec?
Non.
Non?
Non, okay. Moi, c'est
non, mais c'est carrément quelqu'un à Québec, puis il s'en va ambiancer, parce que ça, c'est comme la société des ambianceurs. PE, c'est quoi le PE?
Je savais pas.
C'est Société des ambianceurs, blablabla.
Professionnel quelque chose.
Peut-être. Mais la sape, c'est aussi être désape-toi, ça veut dire déshabille-toi, ou sape-toi, ça veut dire habille-toi.
Ouais, ben, je veux juste faire un petit shout-out à Maître Gibbs.
Ouais. Gibbs, c'est ça? Ouais, c'est quoi,
ça pique comme jamais?
Ça pique, ouais,
ça pique comme jamais.
Oh, mais c'est, ça, c'est, non, ouais, mais on va la mettre, mais c'est sûrement du, hein, c'est du rap.
Oui, puis...
Puis c'est récent.
Mais c'est un... Ben lui, il vient de, il est d'origine africaine, là, je me souviens pas exact... Ouais, ça paye comme jamais.
Oh, ouais, bref, non, mais ça me dit quoi, mais j'ai, mais j'en ai jamais écouté pour
mais vrai. Mais maintenant, sur Netflix, il y a son documentaire sur lui, là. Mais c'est ça. Mais il parle de sa sape à lui. Mais ça revient à la mode, au final.
Ouais, mais depuis tantôt, j'ai hâte à la question de la conclusion, le faire des liens entre... Là, l'avant et là, aujourd'hui, là. Là, tu devais encore... Non, mais c'est tantôt, mais... non, mais c'est tantôt, on va faire du plaisir.
Stop.
Donc, ce soir, nous avons une conclusion à notre émission.
Ah, oh, mais attends, là, on va parler de la sape de avant, là.
En sautant la troisième partie.
Non. Mais attends, là, la sape du hip-hop parisien.
Parce qu'on pouvait parler de l'afrocentrisme, du rap conscient.
Ah, c'est vrai.
Mais on peut aller directement à la conclusion parce que le temps file. On est 44
il reste 15 minutes. À quel point?
On est vraiment correct. Fait que vas-y sur la sape.
On est correct, madité.
Vas-y.
T'es juste mad. Ça.
Mais vas-y sur la SAP.
Ouais. Je vais vous donner des grandes lignes sur la SAP.
Les difficultés de la recherche.
Ok, ouais. Parfait. La SAP, c'est quoi? Les codes, j'avais parlé dans l'autre partie.
Excusez, je vais avoir l'air tellement illettré. C'est quoi SAP?
SAP, c'est se vêtir. C'est...
Ah, fait que pour toutes les gens qui se posaient la question.
Get dressed.
5 minutes.
Je sais pas, ouais.
Voilà. Donc,
on l'avait dit. J'ai dit SAP. Désape-toi, ça veut dire ouais, déshabille-toi. C'est le vin qui te rentre dedans, Maïté.
Moi, je pourrais mettre... on pourra mettre des vidéos en annexe, par exemple, ouais, par rapport à la salle.
Bonne idée.
Le tien et le mien, puis ça pourra donner une idée. Mais c'est l'idée d'être bien habillé, finalement. D'être sapé, c'est d'être bien habillé.
C'est l'apparence. C'est un code vestimentaire qu'on doit respecter. Mais les exemples sont... Avez-vous, mesdames, dans votre temps cool ou pas cool de votre primaire, secondaire, avez-vous... une passe que vous attachiez pas vos lacets de souliers?
Oui!
Ou genre, vous n'en aviez carrément pas?
Non, j'en avais pas. J'avais des souliers à roulettes.
Oh! Mais le... OK, il y a une petite parenthèse qu'il faut pas que je m'éternise. J'ai l'impression que le skateboard, skater la rue, c'est comme un héritage, c'est un fil conducteur de posséder la rue par la taguer. J'ai comme l'impression que le skate, ça peut rentrer dans l'idée... de la culture de la rue, puis dominer la rue par le skate. Point. On n'embarque pas là-dedans.
Témoignage personnel.
Ouais.
Je faisais un peu de skate, mais j'étais quand même amie avec la bibliothécaire au secondaire.
Ouais.
J'habitais pas là.
T'étais à la fois cool et à la fois nerd.
Mais non, mais ça, je pense que... En tout cas, moi, j'avais des voisins, ben un voisin particulièrement super désagréable. Mon frère faisait beaucoup de skate quand il était jeune. Puis c'est vrai que c'est habiter la rue, parce que ce voisin-là appelait constamment la police contre mon frère.
Non, mais t'es dérangeant quand tu skates.
Mais c'est ça, il y a
nombre de fois je me suis fait coller.
Le désordre puis
ouais,
le skate.
Ouais, carrément.
Qui rejoint le désordre avec le hip-hop d'une certaine manière. Puis maintenant, je pense, on pourra revenir aux vêtements. Ben en fait, on revient aux vêtements à l'instant, mais le style du skateur, par excellence.
Oui, le skateur, skateuse a un peu les mêmes vêtements que les hip-hoppers, hip-hoppers.
Et particulièrement les hip-hoppers, hip-hoppers des années 90.
Les vêtements amples, des gros pants pour effectuer ces mouvements. Puis là, les skaters de la génération d'après, ils vont mettre des skinny. Mais le vêtement, je te dis, le vêtement...
C'était une rough période, les skinny.
Moi, je porte des skinny fièrement, gang, là. Mais bon, OK, regarde... les lacets à Run DMC, It's tricky to rock around, it's tricky. Eux ne mettaient pas de lacets sur leur Adidas. Ils se prenaient avec des Adidas avec la bain détachée comme du monde. Il n'y avait pas de lacets. La langue a remonté. Ça, c'est un look, c'est un code hip-hop.
Mais c'est
on
pas
a
pratique.
La... Juste un bas de pantalon remonté.
Ouais.
Genre les pantalons bas. Les pantalons bas pouvaient signifier l'idée de « je viens de braquer une banque, puis là, j'ai plein de liasses de pièces d'un pétalon, puis mon gun, il est lourd en crisse. » Fait que mes culottes, on voit full mes boxeurs.
Est-ce que ça a aussi rapport... Puis là, ça, c'est peut-être far-fetched, mais Je suis en train de revisionner les frères Scott. Mais, la, wow. Mais le style de basket aussi, c'est comme...
Ouais.
Mais
ouais.
Il y a beaucoup de ça, comme dans le look, je pense. Comme les souliers de basket des années 90-2000.
Oui. Détachés. Ouais. Ouais. Les gros pumps détachés. Ouais, ben, je pense que le court, le terrain de basket, ça, c'est un lieu clé dans le... dans la culture rap et pop.
Mais c'est aussi un lieu...
Mais peut-être aussi le foot... Danser, genre, j'ai l'impression que le basket puis le hip-hop, il y a des liens à faire avec le rap, parce que à preuve, là, je piade Martinet, là, mais le... Au Super Bowl, le dernier Super Bowl, c'est qui avait sur scène? Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige, 50 Cent.
Dans un excellent... c'est un très bon...
Ouais, puis il est vrai de dire que la performance de 50 Cent a choqué certains et certaines, mais regarde, tu regardes le portrait global du hip-hop, l'idée de la masculinité qu'on parlait tantôt, tu peux... Bon, est-ce que ça passe bien, est-ce que ça passe pas? C'est à vous de me dire, c'est pas à moi de vous le dire.
Mais ça dépend aussi, c'est ça. Ça dépend des valeurs de chacun, puis de la définition que chacun a de soi. Puis moi, perso... 50 Cent m'a pas choqué parce que...
50 Cent?
J'ai dit 50 Cent.
Ah, c'était... Non. Ben, 50
Cent. Ça sonnait 50 Cent l'année. J'ai dit 50 Cent.
Ouais, 50 Cent.
Ben, 50 Cent, ça m'a pas choqué. Maïta m'a frappé avec le coup. Ça a fait tellement mal. Ow. Mais 50 Cent... En tout cas, je vais dire 50 Cent. Maïta a voulu marcher.
C'est pas 50 Cent!
Elle est tellement appelée par 50 Cent.
On est bon, on a encore 10 minutes, puis je suis sûre qu'on va y arriver.
Mais oui, mais ça m'amène à justement la question de... Parce qu'on parle depuis tantôt de trucs qui sont... qui datent des années 70 à 90, mais qui sont encore actuels. Parce qu'il y a tout plein de choses qui ont évolué dans la culture d'aujourd'hui, finalement. Puis on parle du... Je veux dire, on vient de parler du halftime show de 50 Cent l'année passée.
Oui.
Alors, moi, ça m'amène un peu à me poser des questions sur qu'est-ce qu'il y en a des sources, mais aussi de la recherche là-dessus, parce que c'est tellement actuel. J'ai l'impression qu'en histoire, étant donné que c'est presque contemporain...
C'est de l'histoire récente, en mots t'as dit.
Puis on est un peu en histoire, j'ai l'impression, un peu snob là, de l'histoire de maintenant.
Moi, mes objets d'études sont tous et toutes morts.
Mes objets d'études, c'est en moins 50.
Ouais, c'est ça.
C'est moi. Ça, c'est moi.
Ouais, c'est ça. Moi, c'est... quand même histoire du Québec contemporain.
La plupart de mes acteurs sont vivants. Là,
c'est ça, moi,
à preuve,
décédé.
Ce soir, là, petite parenthèse, il y a le chanteur Rimka qui, quand tu le mets
ce
à l'envers,
soir,
ça fait Karim, au Centre Bell de Montréal.
On est le 27 janvier, faut juste le dire. On est le 27 janvier.
On est le 20, oui, on est le 27, parce que c'est pas live, notre pas le TV show, mais... Hein? Il donne un show ce soir au Centre Bell. Puis Karim Rimka, c'est excellent.
Shout out.
Mais ouais, le problème avec les sources, c'est que je sais ça. On est encore vivantes, mes sources.
Mais c'est. Tu sais, puis je pense à l'histoire du 19e siècle. Puis Rose, toi, tu es encore plus loin, fait que tu as une perspective. Mais. Non, mais c'est vrai. En fait, tu sais. Non, mais. Pas juste pour le hip-hop, mais c'est une histoire tellement récente que des fois, ça peut être difficile de les comparer avec d'autres vecteurs culturels ou d'autres problématiques ou événements socioculturels qui se passent en même temps, donc voir un impact. Je pense qu'en ce moment, on est présentement dans les impacts qui influencent justement peut-être cette musique-là, cette culture-là, tant matérielle qu'immatérielle. Fait que c'est peut-être... puis là, c'est peut-être... Willem qui parle. Donc
non, mais j'ai envie de déblatérer sur ce que tu dis. Là.
Mais moi, c'est ça que je trouve comme un enjeu pertinent parce que moi, personnellement, cet enjeu-là, je ne l'ai pas parce que je peux faire une comparaison immédiatement avec la transition socio-économique du 19e siècle. Mais toi, tu peux difficilement faire la transition socio-économique de 2005, même si on... T'sais.
Mais... Je reprends un peu tes idées. La transition socio-économique du 19e, là, tu parles un peu des phases d'industrialisation.
La transition vers le capitalisme
c'est
industriel.
C'est ça. Mais le hip-hop, je pense que c'est comme le... J'en ai plein ma... Je vais parler en hip-hop, là, je m'excuse pour écrire. J'en ai plein le cul de ces tendances capitalistes-là, puis là, il faut que ça cesse. Mais je vois aussi un autre tangente à ta question... On en est où aujourd'hui? Le hip-hop tel qu'il était en 70, je viens de le décrire, ou du moins je viens d'essayer. Puis, On peut-tu conclure? Parce que il me tarde de vous parler de ça à l'instant.
Mais oui, mais vas-y, Antoine, il n'y a pas personne qui te retient.
OK, parfait. Le hip-hop de ce que je viens de vous présenter est aujourd'hui.
Oui.
Le hip-hop, avant, était underground, choquant, dérangeant. C'est aujourd'hui C'est aujourd'hui la musique la plus vendue, le hip-hop.
Ah, ouais.
Après
Taylor Swift.
T'as peut-être raison. Mais c'est ça.
Excuse-moi, Midnight de Taylor Swift.
Non, ben, genre, okay, ça, c'est de la pop, mais le hip-hop, ou du moins, mettons, Lil Pump. Tu sais, vous voyez où je vais en venir? Eminem.
Lil Nas X,
c'est carrément des trucs, les playlists Spotify, c'est partout, le hip-hop est partout d'un point de vue musical, c'est une des cultures les plus vendues, si c'est pas la plus vendue, après Taylor Swift. Fait que là, côté musicalité, c'est pas mort. On a la période que j'ai présentée, puis c'est encore présent aujourd'hui. Le breakdance, on s'affronte en dance battle dans des boîtes de nuit, on danse, on s'exprime. Le breakdance, gang, c'est aux Jeux olympiques de 2024 à Paris, les Jeux olympiques d'été, on a rajouté une discipline, pis c'est le breakdance. Fait que là, le breakdance, la culture hip-hop s'est rendue popularisée à un point fou, là. En musique, c'est la plus vendue. On est aux Olympiques, quelque chose d'assez commercialisé. On a le breakdance comme discipline qu'on vient de rajouter.
Mais c'est que dans le fond, le hip-hop a juste inclus la culture dominante, finalement.
Il a gagné son pari commercial fois 1000. Le vêtement.
Mais est-ce que ça dénature, le hip-hop?
Beaucoup de gens vont le contester. Le
on
hip-hop, c'est supposé.
Mais
ouais,
continue
ouais.
Dans ce que tu voulais dire.
Ouais. Je vais essayer de dropper
le
un verse. Le vêtement, on a des vêtements amples pour effectuer. On a des codes vestimentaires, mais on a des vêtements amples pour, à la base, effectuer nos prouesses au sol. Parce que tu rentres... Généralement, tu rentres dans les hip-hop par la danse. Fait que t'as des vêtements associés à la danse. Aujourd'hui, les hip-hoppers, comme Lil Pump, qui chante Gucci Gang, c'est de la haute couture. Les hip-hoppers, aujourd'hui, portent des vêtements issus de la haute couture que ton blouson ou ta chemise coûte 8 000 €. Puis avant, on crevait de faim, puis on faisait du hip-hop, puis il fallait braquer, dealer pour s'acheter de quoi manger. Puis aujourd'hui, ben, t'es habillé à 35 000 €.
Mais c'est ça, puis ça revient à ce que peut-être je te disais tantôt sur le fait que c'est difficile de faire l'histoire de quelque chose que peut-être l'histoire évolue présentement. Mm-hmm. Tu sais, on est peut-être
pas une
personne pour faire cette histoire-là. Peut-être que...
C'est une source primaire en ce moment, gang.
En ce moment, on est une source primaire. On est des gens qui vivent cette histoire-là, puis moi... personnellement pas fanatique d'histoire récente. Je trouve ça hyper intéressant ce qu'on fait en ce moment, mais comment on peut pas ne pas être biaisé par rapport à ce qu'on vit présentement?
C'est ça, je vous parle des Jeux olympiques de 2024, c'est dans un an et demi.
C'est ça.
C'est ça.
C'est pas encore arrivé.
C'est du futur historique, gang!
Ouais, on n'embarque pas dans le futur historique.
Non, c'est un péché de l'historien et de l'historienne. Mais admettons, là, pour finir mes quatre volets, le graffiti, on en est où? Ça, c'est probablement le volet que j'ai le plus de misère à comparer le passé à aujourd'hui, parce que je trouve que c'est pareil quasiment.
Ben non, mais il y a des...
Il va juste avoir les messages qui vont être différents.
Il y a des organismes communautaires qui vont revaloriser certains bâtiments.
C'est vrai,
graffiti. Le tag n'est plus quelque chose de négatif ou violent.
Il va avoir des... Ça va faire l'objet de commandes. Mais oui. Ça a été l'objet de commandes avant aussi. Mais bon, je trouve que c'est lui qui reste peut-être le plus authentique ou le qui a le moins évolué, je sais pas comment dire.
J'ai l'impression qu'on reconnaît plus cette culture-là comme étant une vraie culture aussi maintenant. Comme j'ai l'impression que dans les années 2000, le graffiti, c'était non. Ouais. Peu importe quel type de graffiti. Alors que maintenant, on demande aux gens de venir, je sais pas si c'est un verbe, là, mais graffiter. Ça
oui, c'est un verre, graffiter les graffiteurs. Je viens de défoncer la table, mais c'est pas grave.
Super, il y a un espace, il y a un tiroir où elle s'est assise. Mais graffiter sa maison, fait qu'on leur demande de venir faire un design sur la maison. Mais je pense que dans les années 2010, en tout cas, c'était non, le graffiti. Donc, j'ai l'impression, puis ça revient au cycle aussi qu'on voit dans la mode, puis dans les choses dont on parle. Puis on en parlait tout à l'heure, mais du retour... du style de French Prince of Bel-Air.
Ouais.
J'ai dit French, mais il était pas French. Fresh. Mais on le voit dans le retour de ces styles-là. Il y a toujours un balancier un peu avec les styles, je pense. Puis le graffiti en fait partie, alors que ça a été non pendant tellement longtemps. Maintenant, je pense qu'on le reconnaît plus comme une forme d'art. Puis on demande aux graffiteurs de venir, de produire de l'art chez soi.
Donc on prévoit de l'histoire de longue durée.
Ouais!
Mais c'est pas nous qui pouvons la voir, c'est s'il y a encore des gens.
Mis à fin.
Dans 200 ans. Non, mais c'est vrai quand même. Mais je pense qu'il y a quand même de l'histoire à faire, juste par rapport à l'installation de ces éléments culturels-là à Paris dans les années 70. C'est sûr que là, 2010, c'est peut-être un peu difficile de voir les impacts, mais c'est vraiment un sujet pertinent. Puis je pense qu'on est. Qu'on est sur le bord de la conclusion. Où on conclut.
On conclut.
Donc.
Mais je vais en parler pendant une heure. Dis-moi la question.
Non, mais OK, je peux te dire la question. Ouais. Donc, question, conclusion. Puis là, Charles Tissard ne va pas être là parce que.
Il est parti. Il est songé, j'ai fini.
Mais la question étant, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as voulu aborder dans ton travail, mais tu sais, le manque d'espace fait en sorte que tu n'as pas pu en parler?
Toutes. Je pourrais te pondre une thèse de doctorat live.
Bon, l'attends!
Mais je pense que juste ce soir, avec toutes les questions qu'on a posées, ben ce soir, puis pour les auditeurs, c'est
peut-être... C'est pas mal le soir, ouais.
Ça peut être plus de temps, là, mais toutes les questions qu'on a posées sur le rap et la culture du hip-hop, c'est un doctorat certainement, là, comme...
On a des étudiants à l'Université Laval en socio puis en histoire qui se sont adonnés à l'étude d'un sujet pareil. Mais là.
On n'a pas beaucoup parlé de l'historiographie, non. Donc des études en général sur l'histoire du rap, mais je pense que ça manque quand même à la culture de l'historien. Comme il y a des choses qui ont été faites, qui ont parlé de l'afrocentrisme, qui ont parlé du rap conscient, mais il manque un peu de documentation là-dessus, puis c'est à faire l'histoire de cette culture-là. Fait que pour ceux qui se magasinent une maîtrise ou un doctorat, salut! Ça pourrait être intéressant. Dans tous les cas, pour conclure, Antoine,
ouais.
Y a-t-il quelque chose que tu aurais voulu aborder dans ton travail que tu n'as pas pu faire?
Mais il faut dire que j'avais 15 semaines pour faire un travail sur le hip-hop. Puis bon, je me suis adonné par la force des choses au hip-hop à Paris. Supreme NTM, c'est un groupe que j'adore. Et c'est un groupe choquant, perturbant, mais tout à la fois grandiose et génialissime. C'est du génie. Marseille, on va en parler. Marseille, c'est un autre pôle hyper important de la culture hip-hop. Et mon groupe préféré de Marseille, c'est I Am. Il est possible de faire une approche comparative Paris, Marseille. NTM et IAM ont longuement collaboré. Ils ont collaboré et rapidement, il y a eu des clashs de vouloir avoir le titre du meilleur, puis il y a eu des embrouilles. L'idée de faire l'histoire longue du hip-hop des débuts à nos jours, c'est quelque chose que j'aurais voulu aborder que j'ai juste mis en conclusion. Le hip-hop, là, je t'ai dit... Il y a du stock à faire, puis je me suis juste réservé à l'émergence du hip-hop. Je me suis même pas intéressé à la sonorité. Quelles sont les composantes historiques et les emprunts culturels de tel endroit et tel endroit pour son déploiement. Je me suis juste intéressé à comment c'est arrivé rapidement à Paris jusqu'à son arrivée à la radio de manière assez brève. Fait qu'il y a beaucoup à faire.
Ben, puis tu sais, juste par rapport aux théories musicales, je suis pas calée en théorie musicale, mais je suis sûre que tu peux voir finalement de la longue durée dans certains rythmes, de l'adaptation peut-être comparée. Tu sais, juste une histoire comparative du rap émergent par rapport au rap qui est présentement popularisé, jusqu'à quel point les rythmes du rap populaire présentement est associé au pop populaire de présentement. Par rapport au rap, tu sais, mettons, du début de l'émergence. Mais tout ça pour dire que finalement, il y en a beaucoup à dire. Vous avez un exemple peut-être avec nos deux heures de jasage.
Pour terminer l'épisode, là, juste pour vous dire bye, pas parce que je veux pas parce que je veux empêcher Maïté de chanter, mais parce qu'il faut qu'on conclue. Je remercie Antoine d'être venu, je remercie Maïté d'avoir été là aussi, je me remercie moi d'avoir assisté à tout ça. Puis je pense qu'on a tous appris une leçon que deux bouteilles de vin, c'était peut-être trop. Mais c'était vraiment le fun. Moi, j'ai eu du plaisir comme jamais à ce podcast. J'espère que vous pourrez faire sens de tout ce qu'on a dit ce soir puis que vous aurez des questionnements au lendemain de l'épisode.
Pas trop
de questionnements, mais plusieurs réponses et plusieurs questions. Mais n'hésitez pas à nous écrire dans tous les cas parce qu'on est là pour répondre aux questions. Puis si ça vous tente de faire un épisode aussi, on est là pour ça. Tout ça pour dire, merci Antoine.
Merci beaucoup.
Puis à la prochaine. Bye la gang!